de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, Cinérama, c'est une demi-heure pour parler de cinéma et puis jouer parfois, et c'est le cas aujourd'hui. Nous allons jouer un blind test avec la filmographie de Blanche Gardin. Pourquoi Blanche Gardin? Eh bien parce qu'elle tient le premier rôle d'un film, d'une comédie qui s'appelle Un monde merveilleux, où elle fait une sorte de buddy movie avec un robot. C'est un film qui est en salle depuis le 7 mai et aujourd'hui on va essentiellement parler de films qui sont d'ailleurs en salle depuis cette date. Manu, un film par un réalisateur plutôt connu.
Trois réalisateurs même, puisque c'est une collaboration entre alors Guy Madin ou Guy Madin, je vais dire Guy
jamais.
Madin, et puis de Evan et Galen Johnson, donc il s'agit de Rumors.
Et puis toi Sophia, un film.
Oui, celui de Roxane Elberg, Coca Chicas.
Et puis toi Guillaume, c'est un film en salle et puis un film sur une plateforme.
C'est ça, le film en salle c'est Ghostlight et le film sur plateforme c'est le dernier Luc Besson, Dune and John.
Allez, après le G20 sur Prime, voici le G7 version, donc Guy Madin ou Guy Madin, on ne sait pas. Nous parlons de Rumors.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
Alors ça, c'est une découverte.
C'est quoi au juste? Ça m'a l'air plutôt macabre.
Eh bien, ce que vous voyez s'appelle un homme des tourbières. Ça date de l'âge de fer.
Si vous regardez là, son pénis a été coupé, mais aussi suspendu à son cou.
C'est un homme, il n'y a pas de doute.
Alors pour ceux qui connaissent le cinéma confidentiel de Guy Madin, hein, très porté sur les expérimentations visuelles, notamment tout ce qui a trait au traitement particulier de la pellicule, Rumors n'a rien de très déstabilisant, mais se révèle très différent de toute une partie de sa filmographie, alors de ses débuts foudroyants avec Archangel jusqu'au très beau Des trous dans la tête. Depuis quelques films, hein, il collabore à la réalisation avec Evan et Galen Johnson, hein, pour un résultat plus, alors conventionnel c'est un bien grand mot, hein, ou du moins plus disposé à plaire à un public plus large. Alors calmons-nous cependant, parce que après Le brouillard vert et La chambre interdite, ce nouvel opus à six mains, donc avec Rumors, n'a rien non plus d'un divertissement qui aurait pour but de ratisser large. On reste tout de même ancré dans un univers insolite que ne renierait pas. Alors un autre trublion du cinéma, hein, puisque ça avait fait penser, Alex van Warmerdam, hein, qui avait réalisé notamment Numéro 10 récemment. Alors présenté à Cannes hors compétition, hein, l'an dernier, Rumors, est une œuvre inclassable, hein, une farce grotesque par son sujet. Alors, évoquant le récent Fairy Tale d'Alexandre Sokourov, qui filmait d'ailleurs la réunion entre Hitler, Mussolini, Staline et Churchill, qu'un quatuor de stratèges perdu dans les lames du purgatoire. Alors, moins fantasque, hein, il faut le dire, Madin et les frères Johnson s'en tiennent à un semblant de réalisme, partant d'une situation concrète, tout ce qu'il y a de plus tangible. Réunis dans un château en Allemagne pour leur sommet annuel, isolés du reste du monde, les dirigeants des pays du G7 s'installent en bordure d'une forêt afin de préparer ensemble leur déclaration. Et donc, étant présent à cette réunion, hein, donc le président des États-Unis, de la France, la chancelière allemande, premier ministre anglais, italien, japonais, et canadien. Voilà, on a tout. À la nuit tombée, le groupe constate que le personnel qui les entourait a disparu. Alors nos sept politiciens, tels des géotrouve-tôt à la dérive, s'enfoncent plus en avant dans une végétation pleine de mystères et de bizarreries.
Regardez-nous, les dirigeants de ces grandes nations réunies.
Mais on est aussi réunis pour émettre une déclaration provisoire concernant la crise actuelle, ne l'oublions pas.
Il est important de dire ce que l'on pense.
Oui, évidemment.
Les gens se tournent vers nous pour y voir plus clair.
Toute cette pression pèse lourd sur ses épaules.
Tu ne peux même pas résoudre tous les problèmes du Canada.
Un verre, s'il vous plaît.
Oh !
Y a quelqu'un ?
Alors, lors de l'escapade en pleine forêt, hein, le film rappelle étonnamment un très beau roman de Herbert Lieberman, La huitième case, alors dans lequel un groupe de personnes se perdait en forêt avant d'apprendre, lors d'un twist final assez dément, que ces adultes un peu perchés étaient en réalité des enfants qui jouaient une sorte de jeu de rôle. Alors, la conclusion de Rumors n'a rien à voir, mais on y pense un peu tant le manque de maturité de ces figures étatiques saute aux yeux. Ils se comportent comme des gamins perdus dans un univers onirique qui lorne du côté de Lewis Carroll. Alors, après un début un peu pénible renforcé par le jeu joue très, très théâtral des comédiens, visiblement quand même très heureux d'endosser le costume des puissants. Le film trouve son rythme de croisière, un mélange des genres avec une évidente jubilation, de la satire politique mettant en exergue l'incompétence notoire des dirigeants au film d'horreur, en passant par le post-apo et la SF. Alors en effet, dans cette balade au cœur d'un monde plein de surprises, on y croise entre autres des spectres, des zombies et puis aussi un cerveau géant.
Où est passé tout le monde ?
J'en sais rien.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
On fait face à une crise.
On le savait déjà.
Comment ça se fait que tu es couvert de boue ?
Il ressemblait à l'homme qu'on a déterré plus tôt.
Elle t'a attaqué !
C'était quoi ? Des terroristes ?
Ils se montraient menaçants.
Des manifestants.
C'est ce que je me suis dit en premier.
Alors cette femme, l'insolite, est nourrie par une forme hybride entre le cinéma gothique avec des grands renforts de brouillard, de l'expressionnisme allemand avec ses brusques ruptures en noir et blanc, et puis une patine visuelle et narrative qui est aussi proche des séries télé contemporaines. Alors tout ça fait un truc un peu étrange en fait. Alors objet iconoclaste, Remorse ne convainc pourtant pas totalement sur la longueur. La faute quand même à un rythme assez lent et puis un humour souvent mal dosé qui tombe à plat. Voilà, le film est étrange mais il n'est pas très drôle. Le film navigue donc entre deux eaux, entre la comédie surréaliste et puis l'errance existentielle assez anxiogène avant de se terminer par un grand feu d'artifice de n'importe quoi. Alors ceux qui viennent chercher un minimum de réflexion sur la géopolitique contemporaine seront frustrés, c'est vraiment pas pour eux. Le film poussant l'absurde jusqu'au paroxysme assume à la fois sa vacuité et puis aussi son désir de bousculer le spectateur sans lui proposer pour autant une charge cinglante contre nos dirigeants. Alors ceux-ci sont d'ailleurs quand même incarnés par une brochette de comédiens assez étonnant pour un film comme ça à petit budget. Donc il y a Cate Blanchett, Denis Ménochet et puis Alicia Vikander.
Oui, c'est ça que je regardais. C'était la distribution, effectivement, une bonne distribution.
Et puis un autre acteur qu'on voit souvent s'appelle Charles Dance, qui est un grand acteur américain qu'on voit quand même assez souvent. Ce qui est étrange pour un film de Guy Madin. Qui n'a pas l'habitude d'avoir autant de gens connus.
Ouais, c'est plutôt des petits budgets pour ce réalisateur qui a une longue carrière. Rumours est en salle depuis le 7 mai. Trois amis inséparables issus de la banlieue parisienne deviennent des mules, c'est-à-dire qu'elles transportent de la drogue, mais ça tourne mal. Coca Chicas.
Ben oui, c'est le film et le film est bien.
Cinérama.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Elles s'appellent Sarah, Jessica et Chanel et rêvent d'ouvrir un nails bar. Pas de finir en tôle. Et pourtant, Coca Chicas, c'est l'histoire de trois jeunes femmes parties faire les mules dans une île des Caraïbes. Une histoire inspirée d'un véritable fait divers, celui de trois parisiennes du 19e arrondissement qui, il y a de ça quelques années, ont été arrêtées avec plusieurs kilos de drogue dans leur bagage, condamnées chacune à 17 ans de prison. Mais dans le film, librement inspiré de cette histoire, pas de leçon de morale. Bien que la réalisatrice Roxine Elberg s'intéresse de près au trafic de drogue aux Caraïbes, elle transforme néanmoins ce point de départ tragique en un thriller d'action explosif, centré sur la solidarité, le courage et la rage de vivre d'un trio féminin prêt à tout pour s'en sortir. Alors doublement, puisque le plan initial visait à fuir la précarité de leur banlieue, avant de devoir échapper au piège dans lequel elles s'enlisent. Un film qui va vite, qui cogne fort et se focalise sur une odyssée de sororité et de survie carabinée.
Est-ce que je vous avais dit que je vous emmènerais au paradis ou pas ?
Et tu sais que là, je peux gérer n'importe quel mec juste avec mon sourire.
Mais je parie 100 euros avec toi que tu sais qu'elle se prend en vent.
100 euros, j'oublie même pas.
Sarah, Jessica et Chanel sont trois amies inséparables, plus que des amigas. Elles se définissent comme des hermanas, des sœurs. Issues d'une banlieue aux horizons restreints et rêvant de meilleures perspectives, elles partent aux Caraïbes avec une idée bien précise, c'est le plan de Sarah, servir de mule pour ramener de la drogue en France, empocher assez d'argent pour lancer leur salon de manucure et enfin tourner la page. Mais tout bascule à l'aéroport. Jessica se fait extraire de la file au moment de monter dans l'avion, puis disparaît complètement. C'est le début d'un Midnight Express, revisité au féminin pluriel. Sans nouvelles, ses deux amies refusent de laisser Jessica tomber. Elles entament alors une plongée vertigineuse dans les bas-fonds de l'île et ses réseaux criminels. L'amitié devient une arme et Chanel, ex-militaire, sait aussi bien manier les autres.
Gracias.
¿Dónde viene la coca chica?
Ah oui, quand même.
Vous en avez pas marre d'être pauvre? Ce nice bar, c'est pour nous trois. Pour qu'on devienne des putains de meufs blindées. Y'a pas de marche arrière, en fait.
C'était pas Borderline.
Nerveux, explosif, parfois un peu bancal, hein, mais toujours tonique, Coca Chica s'impose d'abord par son énergie, hein, évoquant l'élan chaotique de Spring Breakers d'Harmony Korine, où une jeunesse se retrouve confrontée au danger dans un décor tropical aux apparences trompeuses. Mais ce qui distingue Coca Chica, hein, c'est avant tout son regard, hein, celui de Roxine Elberg, qui a travaillé sur la série Big Little Lies aux côtés de Jean-Marc Vallée, puis a été révélée en 2023 avec son premier long, Cold Copy. Et bien, elle continue de creuser son intérêt pour des figures féminines imparfaites et transgressives. Le trio formé par Eva Huo, Zoé Marshall et Fadili Camara, hein, respectivement Jessica, Sarah et Chanel à l'écran, fonctionne très bien. Trois personnalités singulières, aussi juste dans leur fêlure que dans leur détermination. Leur alchimie fait vraiment tout tenir, puisque leur sororité devient carrément le moteur émotionnel du film. Tournée aux Caraïbes, en République Dominicaine, hein, Coca Chicas offre aussi un vrai dépaysement visuel. Hein. La première partie capte les images d'un paradis carte postale, mais la nuit venue, on bascule dans une autre ambiance où les filles flirtent très littéralement avec les marges d'un territoire qui bruisse de nightlife, de musique et de gang. Le contraste entre ces deux mondes évoque le Rio vu dans la Cité de Dieu, où l'exotisme se fissure pour révéler un chaos bien réel. Ici, entre corruption policière, trafic de drogue, enlèvement et même un trafic macabre de dépouilles d'étrangers, le film n'épargne rien de la brutalité du réel. Coca Chicas montre des héroïnes qui prennent cher et encaissent. On est loin des figures badass intouchables souvent vues dans les films d'action récents comme Ocean's 8 ou 355, où les femmes sont surarmées, surcompétentes, ultra contrôlées, voire presque désincarnées. Ce que Coca Chicas a le mérite de proposer, hein, c'est une vulnérabilité brute, un ancrage réaliste, y compris dans l'échec ou la peur.
Coca Chicas, donc les filles de la coke, c'est ça ?
Ouais, exactement.
est en salle depuis le 7 mai. Un travailleur intègre une troupe de théâtre amateur qui met en scène Roméo et Juliette. Et ça se voit sur, bien sûr, sa vie. Nous parlons de Ghost Light.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre.
Alex Thompson et Kelly O'Sullivan, respectivement réalisateurs et scénaristes, avaient déjà fait équipe en 2019, hein, sur Saint Frances, et s'étaient déjà intéressés à la peinture d'une âme au bord du gouffre. Alors dans Saint Frances, il était question, hein, d'une femme se posant énormément de questions sur la maternité, qui se retrouvait nounou alors qu'elle venait d'avorter. Le choc de l'instabilité de sa vie et de l'univers qu'elle va fréquenter l'amène droit dans le mur, et pourtant, c'est dans ses extrémités, hein, que va venir le salut, à la suite d'une longue introspection. Ghostlight est peu ou prou basé sur une structure similaire à première vue. Un homme paumé va trouver une porte de sortie dans le théâtre et, alors qu'il s'enfonce encore plus, hein, dans ses problèmes à force de les refouler, c'est justement cet environnement qui va se révéler à lui-même. C'est justement cet environnement qui va le remonter car il va lui permettre de se révéler à lui-même. Structure similaire à première vue, mais accompagnée ici d'une autre, elle également très identifiée, la rédemption via le théâtre et, oh surprise, à travers Shakespeare.
Et nous écoutons la bande originale, hein, du film.
Et oui, et c'est bien connu, parce que chez nos amis américains, il n'y a qu'un auteur, et c'est Shakespeare. Hein. L'anglais n'en finit plus d'impacter le cinéma, puisqu'il est à nouveau au centre d'un chemin de réhabilitation et de reconstruction, en mettant invariablement en scène quelqu'un de totalement étranger au théâtre, et qui va y trouver les réponses à ses tourments les plus intimes. Alors ici, il est en plus littéralement question de reconstruction, car le protagoniste principal est un ouvrier de chantier, hein, qui a réponse à tout en ce qui concerne du béton solide, mais qui a perdu son propre blueprint, hein, pour bâtir sereinement sa propre vie. Alors beaucoup de bruit pour rien, pour ses peines d'amour propre perdues. Eh ben oui, en quelque sorte, hein, car tout aussi sympathique qu'il soit, Ghostlight coche toutes les cases attendues, hein, de ce genre de film qu'on a vu mille fois, hein, et qui se complète dans une structure qui ne bouge pas d'un pouce. C'est également le même chemin que prend ce film avec tous ceux avec lequel il forme une trop grande famille, puisqu'il a été sélectionné dans bon nombre de festivals apparemment amnésiques ou tout simplement focalisé sur les mêmes grilles de lecture et donc d'appréciation. Mais si, rappelez-vous, hein, pas plus tard qu'en début d'année, hein, j'avais chroniqué ici même Sing Sing qui racontait la même chose mais dans le système carcéral. Alors de là à dire que Shakespeare est devenu une prison, il n'y a qu'un pas. n'y a qu'un pas, hein, mais un pas que je ne veux quand même pas totalement franchir, car il est quand même difficile d'être hermétique à l'universalité de l'auteur. Car, ben, comme dans l'assez ronflant Sing Sing, il y a dans Ghostlight un tout petit je ne sais quoi, hein, qui donne quand même le sourire derrière la tragédie et le bonheur que l'art sauve littéralement la vie, même lorsqu'elle est très durement touchée. L'originalité dans Ghostlight, c'est que pour une fois, Roméo et Juliette sont ridés et bedonnants, et que la mise en scène est bien plus construite que la caméra à l'épaule de Sing Sing. Bon, je m'interrogerai toujours sur le fait que la narration de ces films, hein, utilise des tragédies, hein, finissant dans le sang pour nous mener vers une conclusion heureuse, lumineuse et portée vers l'avenir, même si dans le cas de Ghostlight, qui tourne autour de la perte d'un fils et dont la trame de Roméo et Juliette est, je le rappelle, le suicide de deux adolescents ayant perdu foi en ce monde, être ou ne pas être, la plus grande question d'Hamlet est donc paradoxalement la vraie clé de l'immortalité, ou tout du moins dans l'art.
Ghostlight est en salle depuis le 7 mai, c'est un peu sans transition entre Shakespeare et Blanche Gardin, qui joue donc dans Un monde merveilleux, un film dans un monde de robots, et ce qui nous permettra de jouer à un blind test avec la filmographie de la comédienne et puis aussi humoriste.
Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux ?
Cinérama.
Oui, on est comme on est.
Est-ce que dépasser la limitation de vitesse vous aiderait à aller mieux ?
Oui, oui. Arrêtez-vous !
Quand on imagine un monde avec des robots, on n'est pas obligé d'opter pour le premier degré. C'est le parti pris de Giulio Calegari qui, dans Un monde merveilleux, un titre ironique évidemment, met en scène Blanche Gardin, donc aux prises avec un robot un peu bas du front. Disons que c'est une version 1, quand il existe déjà la version 5, on pourrait faire la même chose avec les iPhones, voilà, du 5 au... On en est à combien ? 16 ? 17 ? Je ne sais pas. Max, c'est le personnage de Blanche Gardin. C'est une ancienne prof visiblement remplacée donc par des robots de TDIA. Autant dire que les robots qui gambattent partout dans la ville, eh bien, elle n'apprécie pas vraiment.
Bonjour Max, je suis le robot domestique T0, le robot qui vous veut du bien.
Regarde. J'ai été prof pendant 10 ans avant d'être remplacée par une machine comme toi. Alors, imparfait, futur...
Vous avez du ketchup, 3 câpres et un demi-citron.
Et tu veux faire quoi avec ça ?
Des câpres au ketchup et au citron.
Miam !
Pour elle, la robotique, c'est un moyen de se faire de l'argent. Elle tente alors de revendre un robot qui appartenait à son père pour des pièces. Mais comme celui-ci est une vieille version, donc le revendeur n'en veut pas. Et c'est contraint et forcé qu'elle ramène l'androïde, qui est en plastique blanc, de taille moyenne et pas forcément très véloce, chez elle. Max est plutôt borderline. Elle l'érige le vol comme un principe et met sa fille jeune adolescente dans la combine, ce qui lui cause bien des problèmes, d'autant qu'elle était déjà en sursis.
Bonjour, vous savez pourquoi je suis là ? Parce que vous étiez nul à l'école. Je suis pas là pour me faire insulter. Donc c'est Hervé qui va s'occuper de vous.
Bonjour.
Elle est où ma fille ?
Elle a été placée dans un foyer. Vous risquez 5 ans de prison. Voulez-vous ajouter quelque chose ?
Va te faire foutre par exemple ?
Par exemple.
Bon, là, effectivement, on entend, hein, c'est un robot qui est finalement agent de police. Éloignée de sa fille, c'est avec le robot donc qu'elle doit rester. Le film devient à ce moment-là un buddy movie. Alors, nous avions vu cette relation humaine robot dans le navet de Netflix de Electric State avec Millie Bobby Brown et Chris Pratt. Mais ici, eh bien, on est à des gigaoctets de l'entreprise mielleuse du film américain. Nous sommes plutôt dans une comédie à la Jacques Weber, soit un couple mal assorti à qui il va arriver des aventures. Le ressort comique tient à la caractérisation des personnages. Il y a donc Max, révolté, Green, ne respectant jamais la loi ou les convenances. Et puis de l'autre, eh bien, une machine qui a des qualités pour le diagnostic médical et qui ne se prive pas de répéter à sa propriétaire qu'elle est dépressive. Et puis lui, il respecte la loi. L'irrespect des règles sert de terreau donc à des séquences où le duo doit combiner, finir par arrondir les angles pour se sortir du mauvais pas. Et davantage qu'une critique d'une société déshumanisée par les robots, il y a cette critique de la normalité et une certaine promotion de l'extravagance. Un monde merveilleux est donc moins un film d'anticipation qu'une comédie, peut-être un peu trop lisse.
Bon, après qu'on ait petit-déj, il faut qu'on aille faire des courses, voilà.
Après qu'on a petit-déjeuner.
Pardon ?
Vous étiez professeur de quelle matière ?
Et oui, le robot reprend sur le subjonctif. S'il y a des gags réussis, le scénario me semble assez paresseux, puisqu'on sait que cette femme, d'abord réfractaire à la robotique, va adoucir ses récriminations, trouvant chez ce robot des qualités qu'elle ne soupçonnait pas. Cela dit, le robot fait quelques pas de côté de sa programmation, en adoptant la conduite de sa propriétaire, capable de violence, d'insulter ou de commettre des vols. La séquence finale est un raccourci de tout cela, car le robot embrasse un comportement typiquement humain dans le cinéma et un ressort scénaristique éculé. Alors, malgré quelques failles scénaristiques, Étonnant d'ailleurs pour quelqu'un qui, avant d'être réalisateur et scénariste pour un certain nombre de séries de Canal+, notamment Bloqué. Alors, il n'empêche qu'on rit à plusieurs reprises à la vision de ce monde merveilleux sans que la mise en scène soit éclatante. Il n'y a rien vraiment qui tranche. Alors, il s'agit d'un film à petit budget, probablement sans aucun effet spéciaux. Les robots sont joués par des individus fluets de petite taille, ça on le sent tout de suite, ce qui rend peut-être le film encore plus attachant. La prestation de Blanche Gardin en mère dépressive est plutôt impeccable, qui assure eh bien, en grande partie la conduite comique du long métrage qui ne fait sûrement pas assez preuve d'originalité. Un monde merveilleux de Giulio Calegari est en salle depuis le 7 mai et ce film nous donne l'occasion de jouer un blind test avec la filmographie de Blanche Gardin qui apparaît dans un certain nombre de films, alors et souvent dans des films à sketch, alors, mais elle a parfois le premier rôle, ça arrive. Alors, comme d'habitude, 5 extraits, il faut trouver le titre, premier extrait.
Voilà, donc on peut s'en passer des serviettes hygiéniques. Et comment on peut s'en passer? Ben en fait, tout simplement parce que le vagin, c'est un muscle et on peut le contracter. Voilà, au même titre que la vessie, quand on gère son flux urinaire, on peut gérer son flux sanguin pendant les menstrues.
La vessie est un muscle? Je suis pas sûr.
Si, c'est un muscle, Victor.
Je crois pas, non.
Ben, si.
Alors, je suis allé à l'école et c'est pas ce qu'on nous apprend. Hein.
Ah, tu veux parler de ce truc qui reproduit les inégalités et qui diffuse la culture bourgeoise?
Non, juste l'endroit où on apprend.
On apprend la culture des élites.
Ouais, au CM2, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'élites à ce moment-là.
Bon, alors, Victor a tout appris au CM2.
Voilà, trouvé.
C'était Problemos.
Oui, film d'Éric Judor qu'on entend, film de 2017, c'est la pandémie, sauf dans un campement d'une communauté dans laquelle donc un couple de Parisiens arrive par hasard. C'est un peu le regard, ce regard qui nous est offert, seulement 192 000 entrées pour ce film qui est vraiment, plutôt remarquable, hein, pour une comédie. Allez, deuxième extrait, nous cherchons des films avec Blanche Gardin.
Tout ça, c'est à cause de cette putain de vie qu'on a maintenant. Avec toutes les guerres, avec tous les trucs, les réchauffements, les animaux. Il n'y a presque plus d'animaux. Il n'y a presque plus de poissons. Il n'y a plus d'éléphants. Les abeilles, elles meurent comme des mouches. C'est atroce. C'est tout ça, surtout. Mais c'est pas grave, hein. Ça va, la vie est belle, quand même. La vie est super belle. Pourquoi t'as resté avec papa et pas avec moi?
Bah, t'as pas d'argent, maman, tu travailles pas. Avec toi, comment j'aurais pu avoir tout ça? Ma chaise de gaming, mon clavier, ou même ça, mes chaussures.
Alors, c'est trouvé.
C'est Effacer l'historique de Carverne et Delépine.
Oui, film de 2020 dans un lotissement en province. Trois voisins sont aux prises avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux et Blanche Gardin interprète Marie, victime de chantage avec une sextape. 518 000 entrées en France pour ce film. Allez, un autre film qui a fait beaucoup moins d'entrées.
Pourquoi on ferait pas une sextape?
Ça va pas, non? Depuis 20 ans, enfin. Qui veux-tu qui regarde ça? C'est dégueulasse.
Je sais pas, moi je regarderais. Ça ferait un vu. Oh. Voilà, on pourrait divorcer.
Hein?
On se sépare violemment. On se déchire pour la garde des enfants. Pérez contre Pérez. On couche à droite à gauche pendant quelques mois et on se réconcilie.
Ah ouais? Tu coucherais avec qui, toi?
Je sais pas, c'est une façon de parler.
Ouais, c'est ça, ouais. T'es chiant d'être allergique au chat, putain. On aura un chat. On aura des millions de vues, là. Le chat qui ouvre les tiroirs, le chat qui rigole. On met les chats à table, avec des couverts.
Alors, ça n'a pas été trouvé dans le studio. Peut-être que vous, cher auditeur, vous avez la réponse. Le film raconte les destins comiques de personnages confrontés au monde numérique. Blanche Gardin interprète le rôle d'une mère qui a du succès avec les vidéos de son enfant atteint d'une maladie jusqu'au jour où il est guéri. Là, c'est pour ça qu'ils réfléchissent à d'autres stratégies pour faire des vues. Et il se trouve que dans ce film, le scénariste, c'est précisément le réalisateur donc, du film dans lequel joue Blanche Gardin. C'est Selfie. Voilà, film de 2017, 162 000 entrées en France. Donc, c'est pas parce qu'il y a Blanche Gardin qu'on fait beaucoup d'entrées. Autre exemple avec ce film.
Est-ce qu'elle vous a laissé des biens?
Oui, un appartement à Lisbonne.
Ah, ça c'est pas mal, ça. Il est à votre nom à tous les deux?
Mm-hmm. Oui.
Ah.
Elle l'a mis à notre nom avant de mourir, oui.
Ah, mais ça c'est bien, ça. Ça c'est vraiment bien. Ça c'est une piste, ça.
Oui, c'est super. Puis après, elle a clôturé ses comptes bancaires, elle a nettoyé son frigo, elle a descendu ses poubelles, elle a essayé de nous appeler plusieurs fois, on n'a pas répondu, puis elle allait se jeter d'un pont.
Ah oui, ah mais c'est affreux, c'est... Je suis désolée. Vous savez que Maupassant dit que le suicide est le courage des vaincus.
Voilà, c'est le bruit d'un bus. Alors, pas à trouver non plus. Film de 2022 de Céline Deveau. Je crois que c'était sans doute son premier film. Surendettée, Jeanne doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente l'appartement de sa mère. Là-bas, elle rencontre un ancien ami de lycée.
Tout le monde aime Jeanne.
Oui, c'est donc plutôt de la drôlerie mélancolique hein, dont Blanche Gardin se sort très bien. Film de 2022, 162 000 entrées en France pour ce film. Allez, celui-ci, il en a fait, mais vraiment beaucoup moins. Et on termine avec ça, ce blind test.
Mais les Français de souche, vous savez, Michel, je ne crois pas que ce qu'ils veulent, c'est la guerre avec les musulmans. Je pense que les Français de souche, comme tout le monde, ils veulent pouvoir donner à manger à leurs gosses. Vous êtes allé voir sur les ronds-points un peu, les Français de souche, pardon, mais...
Moi, j'ai quelques potes maghrébins qui y sont, hein, sur les ronds-points. Hein.
Oui, enfin bon, c'est quoi les Français de souche? Les Français de souche, ce qu'ils veulent surtout, c'est une pompe à bière dans le salon et un écran plasma. Hein. Ah, ce que vous dites ça, dans l'entretien, surtout, c'est l'histoire des Chinois. Ouais, vous êtes persuadé que les Français préfèrent les Chinois aux musulmans?
C'est évident.
Mais les Français n'aiment pas les Chinois, je sais pas, vous avez vu ça, c'est peut-être parce que vous êtes marié avec une Chinoise. Les 50 personnalités préférées des Français, il n'y a pas de Chinois, Michel.
Moi, il n'y a pas de personnalité chinoise.
Il y a Omar Sy,
il y a surtout Jean-Jacques Goldman.
Alors la séquence est extrêmement longue, mais c'était un petit extrait, c'est trouvé.
Et donc c'est dans la peau de Blanche Houellebecq.
Oui, film de Guillaume Niclou de 2024, très récent. En Guadeloupe, Blanche Gardin préside un concours de sosie consacré à Michel Houellebecq. Bon, rien que cette séquence, c'est merveilleuse.
C'est vrai que le sosie de Michel Houellebecq ne lui ressemble absolument pas en plus.
Non, c'est clair. Michel s'y rend, mais des événements imprévus vont plonger notre duo au cœur d'une intrigue rocambolesque. Seulement 24 000 entrées en France. À noter que ce film est disponible sur la plateforme Canal+. Ainsi s'achève donc ce blind test consacré à la filmographie de Blanche Gardin, puisque nous parlions d'un monde merveilleux actuellement en salle. La rencontre entre John, un jeune homme coincé, June, une femme dynamique et intrépide. Nous parlons du dernier film de Luc Besson, June et John.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
This is Cinerama.
C'est vrai, oui ou non?
John est un comptable empêtré dans une vie de célibataire sans saveur. Alors il est timide, mal dans sa peau, brimé par son patron, coincé, et bien sûr célibataire. Alors un jour, il croise le chemin de June, lumineuse et aussi haute en couleur que ses multiples coiffures. Elle l'embarque alors dans une folle aventure en forme de road movie où l'amour absolu, le graal recherché par John, va devoir triompher de tous les obstacles. Alors vous la sentez, la folle ambition de Luc Besson pour son dernier effort? Eh ben nous non plus. Eh ben, c'est normal, hein. Il a encore une fois derrière le scénario, et oui, ça pique.
Hello, John.
Alors si le titre de June and John nous fait penser à Janis and John, ben, vous êtes dans l'erreur. Alors si c'est une référence aux Beatles, à John Lennon et Hey Jude, ben, c'est certainement pour essayer d'en émuler l'émotion, mais certainement pas ben, la beauté lyrique derrière ce standard éternel. June and John a comme particularité d'avoir été tourné à l'iPhone pendant la pandémie. C'est donc un film tardif, hein, vu sa date de sortie, bricolé à l'économie et uniquement dopé à l'énergie pure hein, qui arrive donc sur plateforme. Une exploitation en salle était impensable, hein, pas forcément à cause de son tout petit budget, car Besson oblige. Il y a quand même ben, quelques moyens mis en place hein, et visibles à l'écran, hein, surtout à cause de son indigence totale hein, qu'il reste sur plateforme. June and John montre bien que Luc Besson est un auteur, hein, dans le sens où il cultive toujours la même vision de la femme faux-folle et capillairement multicolorée, qui est le seul chemin vers l'amour et la liberté d'un homme toujours coincé dans un système. Alors l'élan romantique hein, pourrait marcher hein, si le film avait le souffle d'une vraie jeunesse et pas d'un ramassis de clichés datés, mais June est une énième décalque de Lilou, hein, un nouveau parangon de la gentille cruche qui tombe du ciel, tel un ange comme dans l'épouvantable Angel A. Ne comptez pas sur le pauvre John, hein, il est complètement transparent. C'est pas très inventif, c'est limité et bof, et ça aimerait être une sorte de Thelma et Louise hétéro, mais c'est déjà rappelé que le film de Ridley Scott n'était pas forcément terrible. Alors on n'échappe même pas hein, au finish pompé sur le grand film anti-establishment qui est Point Limite Zéro, et on se pince hein, pour être sûr de toujours voir le film d'un homme de 66 ans et pas d'un étudiant en cinéma boutonneux qui récite maladroitement hein, ses quatre références. June and John a la vertu hein, de nous faire patienter, ou plutôt nous faire une piqûre de rappel hein, de l'arrivée imminente du Dracula de Besson, un projet douteux qui sent la reprise du chef-d'œuvre de Coppola prévu pour cet été. La question qu'il reste en suspens est, Dracula aura-t-il des cheveux multicolores?
Nous verrons bien. En tout cas, ce film de Luc Besson est sur la plateforme Ciné Plus OCS.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle?
Au revoir.
Pardon?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
De vous revoir.
De vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine et tu auras encore un film de plateforme, Guillaume.
Oui, je vais vous parler de Balles perdues 3 et aussi de Transmisvas.
Et puis toi, tu auras un film,
Emmanuel. Film espagnol, Accident domestique.
Et nous aurons sûrement un blind test. À la semaine prochaine.